7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, où en est la société américaine? Les élections de mi-mandat vont se tenir dans un contexte particulièrement tendu, au lendemain de l'attentat antisémite de Pittsburgh qui a fait 11 victimes et de l'affaire des colis piégés. Nous avons rencontré avant ces événements une journaliste française installée aux États-Unis. Elle est notre invitée chez 7 milliards de voisins. Bonjour Géraldine Smith.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes de passage en France. Vous vivez depuis 11 ans en Caroline du Nord, à 4 heures de voiture de Washington. Ça n'est ni l'Amérique la plus profonde, ni la plus pauvre, ni l'Amérique la plus européenne de New York, ni la plus progressiste de San Francisco. Vous publiez « Vue en Amérique », bientôt en France. Ça sonne un peu comme une menace, mais en réalité, votre enquête est plutôt un constat peiné et empathique pour deux pays que vous aimez, dont vous avez les deux nationalités d'ailleurs.
Oui, hein, tout à fait.
Vous êtes franco-américaine, américaine d'adoption. On va plonger très concrètement dans cette société minée par l'anxiété, obsédée par le risque zéro, qui, bien que prospère, connaît une précarité de pays pauvres, avec des contrats à la journée, sous-payés, mais aussi une société de la revendication permanente des individus au nom de leur identité, au nom de leur liberté. Femmes, homosexuels, minorités, noire, hispanique. Vous vous interrogez sur ce qui fait à la fois la diversité et la richesse culturelle de ce pays et qui serait, à vous lire, en train de prendre un mauvais virage, celui de l'égalitarisme à défaut de la justice sociale. Comment, en effet, dans un pays comme l'Amérique, on peut mourir faute de soins médicaux ou sous les balles d'un policier, travailler jusqu'à 75 ans, faute d'une retraite décente, tout en obtenant un accès à des toilettes publiques non genrées. Il faudra que vous nous expliquiez ce que c'est que des toilettes publiques non genrées. Genre, ni pour les femmes, ni pour les hommes. Alors, pour qui donc? Et puis le droit de ne jamais être offensé par quiconque dans un débat intellectuel. Dans une Amérique finalement de plus en plus silencieuse sur l'essentiel, à savoir l'inégale répartition des richesses, mais dominée par logorée d'un président dysfonctionnant, pourquoi donc la France serait condamnée à suivre? C'est la question qu'on peut se poser. À cause de la mondialisation, à cause de son métissage, à cause du communautarisme inéluctable en France aussi, ou tout simplement parce que l'Amérique, elle, ne fait plus la cuisine et mange avec ses doigts, tout comme en France bientôt. On sera également en ligne avec un géographe du genre en France. Oui, ça existe aussi en France, un géographe du genre, Yves Rébeau, travaille sur la domination masculine dans les villes et il nous dira si la France, un an après MeToo, va désormais repenser l'espace public pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis en fin d'émission, portrait d'une jeune Saoudienne qui a fui son pays pour vivre libre, non pas aux États-Unis, mais en Allemagne. Elle vient de publier « Ici, les femmes ne rêvent pas, récit d'une évasion ».
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Aujourd'hui, on est avec Géraldine Smith, une journaliste française installée aux États-Unis. C'est en observant de très près les États-Unis, en prenant du recul sur votre pays, la France, pour voir comment elle changeait aussi, peut-être probablement ce que nous ne voyons pas en tant que Français sur place, que vous avez eu envie d'écrire ce livre.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les premières années, j'ai eu envie d'écrire et je découvrais un pays que je pensais très proche et qui était très exotique. Comme je dis, j'ai vécu au Sénégal et quand on est arrivé en Caroline du Nord, j'ai eu l'impression que c'était plus exotique que l'Afrique venant de France. Et beaucoup de choses me choquaient, m'agaçaient, je réagissais comme beaucoup d'expatriés, parfois un peu à l'emporte-pièce. Et au fil des ans, je me suis dit quand même il fallait essayer de comprendre au lieu de juger et de s'agacer. Et j'ai commencé à étudier, à essayer de chercher ce qu'il y avait derrière les choses du quotidien que je constatais. Et c'est un peu l'origine de ce livre. Et ensuite, lors de mes passages en France l'été, je m'apercevais que ce qui me choquait aux États-Unis, je le sentais venir en France. Voilà. Donc j'ai repéré 8 grandes tendances d'évolution de la société américaine dont je suis convaincue qu'elles arrivent en France et c'est ça l'objet du livre.
Alors, vous décrivez vraiment une société, et ça c'est quelque chose de relativement récent aux États-Unis, une société de l'inquiétude. À quoi correspond cette société de l'inquiétude dans la vie quotidienne, dans le fond?
La société américaine, les Américains sont extrêmement anxieux. Il y a pour commencer quelques chiffres, il y a 9% d'Américains qui sont officiellement atteints de phobies. Alors, de phobies qui peuvent être extrêmement étranges, comme la peur de vomir, la peur d'une bestiole, mais qui sont des symptômes officiels d'anxiété. Et il y a environ un Américain sur cinq qui souffre officiellement de ce qu'on appelle le trouble de l'anxiété, qui n'est pas du stress, mais qui est une maladie. Il y a tout un ensemble de raisons qu'on essaye de comprendre, puisqu'on parle du pays le plus riche du monde. Alors, comment vous avez dans le pays le plus riche du monde, le plus développé, 20% des habitants anxieux, qui souffrent d'anxiété. Bon, une des causes intéressantes, c'est par exemple la disqualification des experts. On est dans une société qui aujourd'hui ne croit plus personne, on pense tout pouvoir résoudre soi-même en regardant sur Internet. J'ai pris dans le livre l'exemple d'une amie qui a un chien qui aboie tout le temps. Elle va chez le vétérinaire lui donne un diagnostic, lui dit c'est rien, elle ne le croit pas. Elle regarde sur Internet et là elle trouve 1000 raisons et elle finit par donner des pilules calmantes parfumées à la dinde à son chien. Ça paraît ridicule, à lui mettre une veste anti-anxiété, enfin toutes sortes de choses qu'elle trouve. Et ça ne règle pas du tout son problème d'anxiété puisqu'à la fin elle se dit mais si mon vétérinaire avait raison et si moi j'avais tort, vous voyez. Donc la disqualification de l'expertise est une immense source d'anxiété par exemple.
Alors il y a 1000 petits détails que vous décrivez qui ne sont pas encore arrivés en France, hein, mais l'omniprésence du gel antibactérien, y compris que l'on passe sur la barre d'un caddie derrière une autre personne, hein. C'est vraiment la phobie de l'autre, de la bactérie de l'autre, et le droit de se sentir confortable, c'est-à-dire qu'affronter le monde extérieur, y compris pour les étudiants à l'université, qui est un monde que vous connaissez bien, c'est devenu potentiellement un problème.
Oui, ce qui se résume par une formule, ce qui pose problème, ce n'est pas le danger, c'est le sentiment d'être en danger. Par exemple, la criminalité diminue depuis 30 ans aux États-Unis. Mais la perception du danger, qu'on est en danger, augmente.
Mais parce que les études portent sur la perception précisément depuis pas mal de temps, d'ailleurs y compris en Europe maintenant.
Oui, tout à fait. Et à partir du moment où on se sent en danger, on estime qu'il faut trouver une solution. Mais comme le problème n'existe pas, vous êtes dans une impasse totale. Si vous pensez, comme mon voisin aux États-Unis, on est dans un quartier extrêmement paisible et convaincu qu'il y a que son fils de 5 ans est en danger parce qu'il y a des pédophiles partout.
C'est ce qu'il a vu sur Internet. Hein. Il y a des sites qui vous disent exactement quel est le nombre de personnes ayant un casier judiciaire et qui vivent à moins de 300 mètres de chez vous.
Exactement.
C'est ça, hein. Vous avez accès à tout.
Vous entrez votre nom, vous mettez l'adresse de votre maison et là, vous avez une carte interactive et ça clignote dans tous les sens qui vous indique sur 30 ans le casier judiciaire de tous les gens qui sont autour de vous. Alors, vous imaginez ce que ça peut faire. Donc, si vous êtes comme mon voisin et que vous êtes anxieux, même quelqu'un qui a été condamné il y a 30 ans et qui vit à 10 km de chez vous, vous apparaît comme un danger potentiel, voyez. Donc, plus on a accès aussi à des ressources en ligne, plus l'anxiété augmente, puisque bien sûr, vous allez toujours trouver quelque chose qui va accroître votre anxiété.
À l'université, moi je connais des enseignants qui me disent qu'ils ont une proportion non négligeable de jeunes, d'étudiants qui ont un trouble psychique et qui donc ont un aménagement, plus de temps par exemple pour composer à l'examen. Et puis effectivement, ce fameux droit d'avoir un espace où se sentir confortable, ce qu'on appelle les safe space.
Oui, alors ce sont deux choses différentes. Dans le premier cas, ce sont des aménagements pour des problèmes considérés comme des problèmes médicaux, donc des problèmes mentaux, qui vous permettent dès l'école d'avoir des aménagements pour toutes sortes de raisons et qui n'ont pas à être expliqués à l'enseignant. Vous pouvez avoir plus de temps pour vos examens, mais vous pouvez aussi quitter la classe quand vous le souhaitez si vous sentez mal. Vous pouvez entrer par une porte dérobée si vous avez un problème de comportement social. Enfin, il y a un nombre infini d'aménagements. Ça, c'est une chose. L'espace protégé, le lieu sûr, le safe space, ça, ce sont des endroits aménagés dans les universités pour que les minorités homosexuels, de genre, les femmes, quiconque a un traumatisme, puissent être dans un espace considéré comme protégé, non pas d'une menace physique, mais essentiellement d'être protégé de toute forme de contradiction.
Mais l'université est précisément le lieu des débats intellectuels.
Oui, alors ça fait l'objet d'immenses débats considérables aux États-Unis, y compris entre enseignants, entre professeurs et dans l'espace public, puisque bien sûr, vous avez un nombre d'enseignants qui estiment que c'est la contradiction de la définition de l'université, le fait de refuser tout débat, et d'autres qui estiment que ces espaces protégés sont absolument nécessaires pour permettre aux étudiants de se sentir bien et de s'épanouir intellectuellement. Donc vous avez deux écoles. Une école qui dit si on n'est pas confronté à la contradiction au débat, comment voulez-vous qu'on grandisse intellectuellement ? Une école qui dit pour s'épanouir, on a besoin d'être dans un espace protégé qui nous permet de nous exprimer sans avoir peur. Peur de quoi ?
C'est ça, le débat intellectuel devient une source potentielle d'agression. Oui. L'élection de Donald Trump, est-ce que c'est aussi le résultat de cette inquiétude permanente ou la raison ? Juste après l'élection de Trump, il y avait 63% des sondés qui disaient que ce qui les stressait le plus, c'était l'avenir du pays. On ne sait pas si c'est parce qu'ils avaient voté pour Trump ou au contraire si c'est parce qu'ils étaient inquiets du résultat de Trump au pouvoir. Mais...
Disons que tout est lié... Les choses s'imbriquent les unes dans les autres. L'anxiété, qui a des sources multiples, bien sûr, c'est pas qu'une anxiété des microbes, c'est une anxiété identitaire dans le sens où les gens ne savent plus forcément qui ils sont, les gens ont peur de l'autre, parce que chaque communauté a tendance à se replier sur elle-même pour tout un ensemble de raisons qu'on pourra évoquer. Et plus vous repliez sur vous-même, moins vous savez qui sont vos concitoyens. Et plus vous devenez spontanément hostile à l'autre puisque vous ne le connaissez pas. Et c'est une des causes qui a favorisé l'élection de Donald Trump, cette espèce de repli d'une partie de la population américaine sur elle-même, de rejet.
Voire une société paranoïaque, on n'en est pas loin.
On n'est pas loin d'une société paranoïaque. C'est surtout une société où il y a de moins en moins de dialogue et de plus en plus de séparation. C'est un peu l'échec du modèle américain d'intégration, dans le sens que c'est un modèle qu'on peut l'appeler multiculturel, communautaire, ça n'a pas d'importance. Mais c'est un modèle qui reposait sur le fait que des communautés de gens différents pouvaient coexister ensemble et former un tout, une nation. Or, on s'aperçoit qu'à pousser à l'extrême cette logique, les communautés ne vivent plus du tout ensemble et vous avez une énorme crise de civilisation.
Voir s'affronte, hein, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir. Vous restez avec nous, Géraldine Smith, nous allons parler des femmes, une minorité majoritaire dans les élections, mais ça s'appelle encore une minorité. Où en est le féminisme aux États-Unis ? Vous faites partie vous-même de groupes de discussion sur Facebook. L'ambiance n'est pas toujours extraordinaire. Vous allez nous dire comment vous percevez toutes les réglementations autour du genre, code de conduite. On sera en ligne aussi avec un géographe du genre en France. Il nous dira en quoi consiste sa spécialité, sa discipline. Helps pay the rent. in America, Brooke et Dunn chez 7 milliards de voisins sur Radio France Internationale. Nous sommes en compagnie de Géraldine Smith qui publie Vue en Amérique, bientôt en France. C'est vraiment une analyse en profondeur de la société américaine à partir de ses plus petits détails comme à ses grandes tendances, lame de fond. Nous sommes également en ligne maintenant avec Yves Rébeau, géographe du genre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et vous êtes chargé de mission égalité femmes-hommes, parce que maintenant il faut dire femmes-hommes, hein, nous-mêmes le commun des mortels. Oui, non, mais on avait l'habitude de dire hommes-femmes. Hein. Donc maintenant il faut dire femmes-hommes. Et vous êtes l'auteur de La ville faite par et pour les hommes aux éditions Belin. Je ne suis pas certaine que le mot genre soit un mot compris de tout le monde dans la langue française, si on faisait une petite enquête dans la rue, là.
Oui, mais c'est pas grave. On peut parler du genre sans être obligé de faire la théorie ou du genre. Hein. Je veux dire, le genre, c'est la relation qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes, et puis toutes les identités de sexe.
C'est ça, le genre c'est le sexe, hein. Ça vient de gender, ouais. Mais nous c'est pas un mot qu'on emploie dans la langue française, en tout cas jusqu'à il y a peu de temps. Sur quoi porte votre travail exactement, Yves Rébeau ?
Oui, alors c'est pas grave que le mot soit pas connu, hein. Il s'agit de parler peut-être d'égalité femmes-hommes ou de discrimination, mais on sait que le genre en grammaire, hein, c'est il y a des règles terribles qui disent que le masculin l'emporte sur le féminin, hein, et qu'on accorde sur le masculin, et donc c'est pareil un petit peu sur mon travail, c'est-à-dire qu'on peut en géographie parler des habitants de la ville, des migrants, des résidents. Et on se rend compte que la géographie de l'espace, eh bien, elle change tout à fait si on dit les habitantes et les habitants, les migrantes et les migrants, les résidentes et les résidents. Et on se rend compte que bien les mobilités, les déplacements, les activités des femmes et des hommes sont extrêmement différentes dans la ville.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, si on regarde les premières études qui ont été faites il y a bien longtemps sur les mobilités dans la ville, eh bien, on se rendait compte que les femmes sont plus nombreuses à la sortie des écoles, dans les lieux d'approvisionnement. Les magasins, les courses, les lieux, les écoles, hein, les crèches, les garderies. Et puis qu'à l'inverse, c'est bien, quand on arrive la nuit, il y a plus qu'une femme sur cinq personnes dans la rue qui marche seule, hein, ou bien qu'il y a, qu'on voit 100% de garçons sur les skateparks et les city stades, dans les grands stades, etc. Et donc on se rend compte que la ville, elle est composée d'habitants qui n'ont pas les mêmes modes de vie, selon qu'ils soient des hommes ou des femmes.
Un an après l'affaire MeToo, est-ce qu'il y a une pression, des attentes plus précises de la part des femmes dans la ville ?
Oui, certainement, mais vous savez, c'est quand même, sans faire un peu de l'histoire récente, il y a eu, avant MeToo, il y a eu les mouvements SOS harcèlement de rue, il y a eu aussi tous les blogs Paye ta fac, paye ta snack, etc. Donc, il y a eu les rapports du Haut Conseil à l'égalité. Et il y a aussi une politique depuis 2012 très importante avec un ministère des droits des femmes, avec des lois sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc c'est un phénomène qui dépasse enfin MeToo, hein, même si MeToo à un moment donne de la visibilité à la chose. Voilà.
Mais alors comment on peut concrètement aménager la ville pour que les femmes se sentent, et surtout pas se sentent, mais soient plus en sécurité ?
Mais si vous voulez, moi mon travail de recherche c'est de montrer comment... la ville, elle indique déjà des situations de confort différentes pour les hommes et les femmes. Et là, si on voit par exemple les noms de rue, qui ont tous des noms d'hommes, les statues, on voit des hommes en majesté, à cheval, avec des livres sur le bras, alors que les femmes qui sont représentées dans la ville sur les mêmes statues sont au pied de la fontaine, nues, avec un voile, etc. Et donc on voit bien que l'ensemble du traitement qui est fait aux hommes et aux femmes dans la ville indique que l'espace public est fait pour les hommes. Anciennement, on trouvait par exemple des urinoirs dans la rue, mais pas de toilettes. Hein. On voit aussi des espaces de loisirs qui autrefois étaient des terrains de pétanque, maintenant sont des skateparks ou des city stades et qui sont destinés aux loisirs des jeunes, mais où il n'y a que des garçons. Et donc, si on regarde avec l'œil affûté, on voit que cette ville est faite pour le plaisir et le confort des hommes et que pour les femmes, eh bien, elle est faite pour qu'elles approvisionnent le ménage ou qu'elles accompagnent les enfants, mais en dehors de ça, c'est à leurs risques et périls. Voilà.
Mais l'œil affûté, se rend-il compte que ce que désirent le plus ardemment les femmes dans les villes, c'est de passer moins de temps dans les transports et d'avoir plus de modes de garde pour leurs enfants, tout simplement ?
Bien sûr,
plutôt que d'avoir des noms de rue.
Ça fait partie d'un ensemble. Hein. Mmh. Mais justement, par exemple, si vous voulez, si on prend les politiques actuelles de développement durable dans la ville, où on va interdire progressivement la voiture en ville, on va arguer cela sur la question de la santé, l'environnement, mais les études que nous faisons montrent que bien, ça va allonger le temps de transport de la ville pour les femmes d'une demi-heure, trois quarts d'heure par jour ou une heure par jour. Hein. Donc d'une certaine manière, on aménage la ville sans se préoccuper sur les temps réels de vie des femmes dans la ville. Voilà.
Restez en ligne avec nous, Yves Rebeau. Géraldine bien Smith, il y a eu il y a quelque temps aux États-Unis, et je crois que c'est parti de Caroline du Nord, ce qu'on a appelé la guerre des toilettes.
Oui.
De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit...
Et en quoi c'est lié à la conception aussi de la ville, en tout cas de l'espace public ?
Oui, tout à fait. Alors, la question, c'était l'obligation faite par une loi de l'État d'utiliser les toilettes en fonction du sexe assigné à la naissance. Autrement dit, les personnes qui sont transgenres, c'est-à-dire qui ont une appartenance de genre qui contredit leur apparence physique, devaient aller dans les toilettes de leur sexe de naissance. En clair, ça veut dire vous ressemblez à un bûcheron et vous êtes barbu, mais vous êtes née femme, vous allez devoir aller dans les toilettes des femmes. Ça posait des problèmes évidents et la loi a été finalement révoquée en partie, puisque...
C'est qu'il y avait des femmes qui se retrouvaient dans les toilettes avec un bûcheron.
Bien sûr, et dans l'autre sens, exactement la même chose. Ça obligeait quelqu'un qui était un homme devenu femme, qui allait être dans sa jupe, disons, avec ses talons, aller dans les toilettes des hommes. Donc la question qui a suscité beaucoup d'émoi au niveau national, et le retour en arrière s'est fait quand l'État a perdu d'énormes contrats avec les associations sportives, la ligue de basket, etc. Et c'est ça qui a conduit à l'abandon de cette loi, soulevait des questions qui étaient moins idiote qu'elle en avait l'air, parce que finalement avec la fluidité du genre, on s'aperçoit que les questions sont souvent beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît.
Quand vous dites la fluidité du genre, concrètement aux États-Unis, il y a combien de personnes transgenres, et surtout il y a la possibilité légale de devenir plus facilement transgenre qu'en France?
Les États-Unis sont beaucoup plus avancés que la France. Vous avez 0,6% de transgenres aux États-Unis. C'est peu, mais ça a doublé depuis 2013. Donc c'est une population en augmentation qui se déclare. Et environ un bébé sur 500, on estime aux États-Unis, naît intersexe, c'est-à-dire que ses gènes contredisent son apparence physique. Et là où c'est important, là où il est important d'avoir ces discussions, c'est que ce n'est pas forcément des lubies ou des nouvelles modes. Oui. Il faut bien comprendre qu'il y a des enfants qui naissent et qui ont ce problème. Et leur souffrance existe, ça s'appelle la dysphorie, quand vous n'êtes pas dans le corps qui correspond à votre assignation de sexe à la naissance. Et donc, c'est le fait, les choses même dont parle la personne qui est en ligne avec nous, le fait qu'on s'intéresse à ces personnes et qu'on essaye d'alléger leur souffrance, c'est une bonne chose. Évidemment, là où ça devient plus compliqué, c'est quand il y a des dérives.
Donc, la dérive, c'est quoi aujourd'hui aux États-Unis?
La dérive aux États-Unis, ça peut être que vous avez... J'ai un ami endocrinologue qui traite ces cas et dont je parle dans le livre, qui me dit qu'il voit arriver des parents qui ont des filles, par exemple, qui se comportent un peu comme des garçons manqués, quelque chose d'assez banal. Et les parents font quasiment pression sur l'enfant pour dire « Mais t'es sûr que tu te sens pas garçon et tout ?» et qui arrivent chez un endocrinologue en demandant des interventions chirurgicales lourdes pour empêcher sa transformation.
Et concrètement, pour en revenir à l'espace public, sur les toilettes, ça donne quoi aujourd'hui aux États-Unis ?
Alors, ce que ça donne aux États-Unis dans les universités, par exemple, qui sont très en pointe là-dessus, c'est que vous avez très souvent trois espaces, hommes, femmes et neutres. Neutre étant signalé par un pictogramme avec un petit bonhomme qui est moitié en jupe d'un côté, moitié en pantalon de l'autre.
Donc, où tout le monde peut y aller, finalement.
Oui, mais on peut dire que ça revient banalement à ce qu'il y avait dans le temps quand
les toilettes
publiques mixtes. Bien sûr, ça se complique dans certains établissements qui se veulent encore plus en avance, vous pouvez avoir des salles de bain neutres. Et alors là, tout le monde est un peu perdu, je dois vous dire, parce que je connais des étudiants qui n'osent plus y rentrer en se demandant s'ils vont tomber sur une jeune femme dans sa douche. Enfin, vous voyez, il y a des complications. Mais en gros, ça veut dire qu'on a abouti à des espaces où vous avez trois types de toilettes, par exemple.
Yves Rebeau, est-ce qu'on va arriver à des toilettes neutres dans les espaces publics ?
Oui, alors je suis très intéressé par ce qu'a dit votre interlocutrice pour dire que le problème n'est pas de traiter les discriminations, mais effectivement de dédramatiser les situations. Hein. C'est-à-dire que si on prend un type de toilette où il y a toilette femme, toilette homme et toilette handicapée, on voit que déjà handicapé est presque un neutre ou un sexe, puisqu'il n'y a pas... Et alors après, il y a des formes de toilettes qui permettent la mixité, hein, c'est-à-dire des toilettes où on rentre dans un espace commun. À gauche, des toilettes fermées femmes. À droite, trois toilettes fermées hommes et une toilette handicapée. Et ensuite, on contourne un muret et derrière, on a des urinoirs. Donc déjà, ça permet aux hommes et aux femmes d'être ensemble dans le même lieu tout en ne partageant pas, parce que c'est l'usage de la propreté pas la même chez les femmes et les hommes, les mêmes toilettes. Hein. Mmh. Mais ça permet également à un certain nombre de jeunes femmes qui ont adopté des dispositifs d'utiliser ce qu'on appelle les urinelles ou des pistes de boue et d'aller vraiment dans les toilettes, ce qui se fait de plus en plus dans les festivals. Mmh. Ça permet aussi de travailler, de réfléchir sur la manière dont chacun choisit son espace pour uriner ou pour faire ses besoins en fonction de son sexe.
Et vous, vous avez été très influencé.
Et donc l'idée, c'est des toilettes inclusives et non pas des toilettes multipliées, des toilettes pour les discriminations.
Des toilettes inclusives. Et vous-même, Yves Rébeau, en tant que chercheur, vous êtes très influencé par les travaux américains?
C'est des travaux internationaux. Il y a aussi des travaux brésiliens, des travaux allemands. On a beaucoup de travaux en France qui étaient plutôt dans la tradition des études féministes, mais on s'appuie effectivement sur les travaux américains. Mais ceci dit, les travaux sur le genre américain en ce site particulier, c'est qu'ils se sont intéressés à la question de trans en ne réfléchissant pas sur les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Et alors que nous, en France, nous avons plutôt une réflexion féministe de ce point de vue-là qui montre comment les cultures masculines sont dominatrices dans la ville, hégémoniques. Voilà. Et donc, c'est plutôt dans cet esprit-là qu'on réfléchit.
Merci beaucoup, Yves Rébeau, géographe du genre Université Bordeaux-Montaigne. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Géraldine Smith, juste un tout petit mot. En ce moment, entre les hommes et les femmes, ça se passe quand même plus très, très bien.
Non, je dois dire que pour rebondir sur ce que vient de dire Yves Rébeau, il y a un féminisme américain traditionnel qui serait plutôt celui des femmes de ma génération, de la cinquantaine, mais il y a un féminisme militant de jeunes femmes, souvent de jeunes femmes issues de minorités, qui est extrêmement vindicatif et dont l'objectif n'est pas vraiment d'obtenir une égalité des hommes et des femmes, mais l'objectif est plutôt de prendre le pouvoir pour résumer. Et c'est un féminisme très agressif et qu'on appelle intersectionnel, qui englobe aussi la rectification de l'inégalité raciale.
Chacun son droit. Vous restez avec nous, Géraldine Smith. On va parler, bien sûr, dans quelques instants, des communautés, des militants, de la diversité. Il n'y a pas que les communautés hommes, femmes. Bien sûr, on va parler des Noirs aux États-Unis.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins sur RFI, on est avec Géraldine Smith qui publie Vue en Amérique, bientôt en France, cette analyse de la société américaine, est-ce que c'est ce qui nous attend en France? Alors vous revenez bien sûr sur la question des minorités noires aux États-Unis, à peu près 13% de la population. Qu'est-ce qui, ça c'est pas un sujet nouveau bien sûr, mais qu'est-ce qui a changé selon vous ces dernières années? Parce que les inégalités entre les minorités ethniques, noires, hispaniques et les blancs se sont plutôt creusées depuis quelques années. Mais il y a autre chose.
S'il fallait que je donne un seul élément pour résumer, je prendrais un sondage qui a été fait en 2016 et on a demandé aux gens, aux noirs et aux blancs, enfin des échantillons représentatifs, ce qui était le mieux pour améliorer les relations entre communautés. Les plus de 65 ans ont dit, ce qui peut le plus améliorer les relations entre communautés, c'est de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble. Et la population âgée de 25 à 35 ans a dit ce qui est le plus important, c'est de préserver et de protéger nos différences. Et ça, pour moi, ça résume la difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire que la génération plus âgée a lutté pour l'égalité et je dis pour que les Noirs et les Blancs puissent être tous assis à la même table. La jeune génération ne veut pas être assis à la même table, elle ne cherche pas à s'assimiler, elle appelle ça du « whitewashing ». Donc,
elle veut une table à côté.
Du blanchiment. Elle veut une table de même taille, mais séparée. Ils n'ont absolument aucune revendication d'assimilation.
Ça, c'est la nouvelle conception américaine de l'antiracisme.
Oui, c'est la nouvelle conception américaine de l'antiracisme. Et c'est la même tendance chez les féministes, d'ailleurs. Les nouvelles féministes ne veulent pas qu'on puisse tous vivre harmonieusement ensemble. Elles militent pour avoir plus de droits et pour vivre dans des espaces séparés.
Sur le plan de la vie quotidienne, c'est revendiqué comme tel. En tout cas, vous décrivez des situations ubuesques.
Oui.
Non, mais alors il y a d'abord toutes ces ce qu'on appelle les micro-agressions.
Alors les micro-agressions, oui, ça c'est une des c'est dans une société qui est de plus en plus à vif, où les gens vivent de moins en moins ensemble, vivent de plus en plus. C'est une société hyper individualiste, si vous voulez, où on ne se vit pas comme citoyen, mais comme individu qui a des droits, et qui a des droits qui sont liés à ce que l'on est, et pas forcément à ce que l'on pense que l'on est, c'est-à-dire la couleur de la peau, une femme, un homosexuel ou un hétérosexuel, etc. Et chacun est complètement à vif, croyant qu'il doit défendre ce qu'il pensait de son identité, sans penser que l'identité est quelque chose qui est en permanente production. On n'a pas une identité figée. Moi, je n'étais pas pareil quand je vivais en France ou quand je vivais en Afrique. Quand je suis partie aux États-Unis, je suis devenue une personne différente. Mes enfants sont devenus à moitié américains. Ils ne l'étaient pas quand ils étaient petits. Bon, mais c'est vécu comme quelque chose qu'on a à vie figée. Dans ce cadre-là, on est complètement à vif pour la protection de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelqu'un demande, je donne un exemple, quelqu'un est dans un couloir et demande à une étudiante noire où se trouve telle salle. Un prof. L'étudiante le vit comme une micro-agression et elle dit plus tard à son prof « Bien sûr, on m'a demandé à moi parce qu'on m'a pris pour la femme de ménage parce que je suis noire. » Vous voyez ? Autre exemple, le fameux exemple des pansements, si on veut. Pourquoi les pansements sont couleur chair ? Et vous avez des militantes qui disent « C'est une micro-agression parce que les pansements, il devrait y avoir des pansements noirs quand on est noir. » J'en parle à une amie médecin qui me dit « Mais non, les pansements sont clairs parce qu'il faut voir le sang, l'infection, il y a une raison. » D'ailleurs, il y a eu des pansements noirs aux États-Unis, ça n'a pas du tout marché. Mais vous voyez, et alors
oui,
si
on
vous
imagine bien que
vivre,
le marketing y avait pensé avant.
Bien sûr,
question
ça
racisme,
fait.
Il y a toujours de l'argent à se faire.
Ça s'est fait, ça n'a pas marché. Les médecins ne veulent pas de pansements ou de bandages noirs parce que vous ne voyez plus le sang, etc. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, vous êtes dans une société à ce moment-là où l'anxiété, la crispation fait que la vie au quotidien n'est pas facile.
Encore plus loin, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le délit d'appropriation culturelle.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est exactement ça?
Alors, l'appropriation culturelle, qui est un concept qui est sorti des universités, il y a une vingtaine d'années, mais qui maintenant atteint l'espace public. Pour résumer, c'est le fait que la classe dominante, pour résumer les Blancs, s'approprie les éléments d'une culture dominée et les exploite à leur profit.
Est-ce qu'un Blanc peut porter des dreadlocks?
Voilà, c'est un cas qui s'est posé. C'est une vidéo qui a tourné de manière virale sur Internet. Un jeune homme blanc à l'université a des dreadlocks. Il se fait agresser dans un couloir par une étudiante noire qui lui dit « Coupe tes... Donnez-moi des ciseaux, coupe tes dreadlocks, tu n'as pas le droit de les porter, elles appartiennent à la culture noire. » Alors, le garçon se défend. Bon, elle estime que...
Ça a fait des millions de vues, hein, cette
ça
vidéo.
Ça a fait
d'ailleurs.
Des 8 millions de vues, ça a fait des articles dans la grande presse nationale, etc. La question est plus intéressante que de dire « Ah, ça c'est l'idiotie du politiquement correct, pourquoi ?» Quand on essaye de comprendre ce qui se passe, l'étudiante noire réagit comme ça parce que jusqu'en 2017, par exemple, dans l'armée aux États-Unis, les femmes noires devaient se lisser les cheveux et n'avaient pas le droit de porter des tresses ou l'équivalent des dreadlocks. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle même les hair politics, la politique des cheveux aux États-Unis, qui fait que la communauté noire se sentait, particulièrement les femmes, se sentaient opprimées parce qu'on leur interdisait de se coiffer comme elles voulaient. Donc, pour cette jeune fille, le garçon s'arroge un droit qui fait cool chez pour un blanc, c'est cool, alors que pour elle, c'est quelque chose qui, dans sa communauté historiquement, lui interdit. Donc, quand on comprend le contexte, et ça arrive très souvent, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas simplement, un blocage. Maintenant, bien sûr, empêcher ce garçon de porter des dreadlocks, qui d'ailleurs viennent des Égyptiens et des Vikings, pas du tout de la communauté noire ou des Rastas à l'origine, n'a évidemment aucun sens, puisque lui, il le fait comme un hommage. Mais alors, pas comme un vol.
C'est ça. Ça veut dire que moi, je porte une tunique créée par une styliste africaine, dessinée par une designer africaine sur le continent africain, mais je n'ai pas la peau noire. Ça veut dire que je pourrais être accusée de délit d'appropriation culturelle par le vêtement que je porte.
Absolument.
Ça serait une provocation pour des Noirs ?
Pour les activistes, il faut toujours faire attention. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais c'est chez les activistes, et je suis une minorité très vindicative.
A priori, si on a choisi de s'habiller comme ça, c'est parce qu'on aime, c'est parce qu'on se sent valorisé, donc on valorise le produit et la création. Ça semble quand même la logique de l'humanité.
Moi, je suis d'accord avec vous. Vous seriez accusé. Il y a eu des cas pour des femmes qui portaient des boucles créoles. Appropriation culturelle. Il y a eu des cas pour des cuisiniers non mexicains qui faisaient des tacos.
Mais ça peut être judiciarisé aux États-Unis, sérieusement ?
Non. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a quelques cas avec les Indiens, parce que, par exemple, on peut estimer qu'il y a une propriété intellectuelle sur, par exemple, le dessin de bijoux. Il y a eu le cas, je crois, c'est arrivé avec des dessins de bijoux qui appartenaient à des tribus indiennes, mais je ne crois pas que ça n'a abouti. Pour l'instant, c'est plus des groupes de pression, c'est plus des débats publics, mais qui sont très virulents. Hein. Ce n'est pas du tout des petits cas isolés.
Ça veut dire que l'appartenance au groupe l'emporte systématiquement sur la situation individuelle, mais tout ça dans une société complètement individualiste. Alors, on n'y comprend plus rien, finalement.
Ça veut dire que moi, par exemple, je ne suis pas qui je suis, mais je suis l'addition de mes tranches identitaires. Ça veut dire que je suis une femme blanche, une femme de plus de 50 ans, une Française. Et c'est ça qui me permet de m'exprimer dans cette vision des choses. Ça veut dire que je vais m'exprimer comme femme ou comme Française ou comme blanche. Mais je ne vais pas m'exprimer comme quelqu'un qui... c'est pas mon point de vue qui compte. Qui me permet de m'exprimer, c'est ce que je suis physiquement. Évidemment, pour moi, j'estime que c'est extrêmement dangereux, puisque à ce moment-là, je ne devrais pas voter pour Barack Obama, qui est un homme noir. Je devrais voter pour une femme blanche, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est anti-démocratique et ça va et dans un sens. Et c'est aussi l'inverse de ce qu'on imagine pour la construction d'une nation.
Ce livre, vous auriez pu l'écrire sous Obama.
Oui, oui, totalement.
Il n'y a pas eu de cristallisation particulière avec Donald Trump ou quand même ?
Donald Trump est plus la conséquence que la cause de ce que je raconte. Il est une des conséquences, un aboutissement de ces crispations que je raconte. Une des conséquences. Ce qui s'est passé avec Trump, bien sûr, c'est que ça a aggravé les divisions, ça a donné aux uns aux autres la certitude qu'ils avaient raison. D'ailleurs, vous constaterez qu'aux États-Unis, l'électorat de Trump, malgré tout ce qui se passe depuis qu'il a été élu, ne change pas.
Non.
Donc, ça n'a fait que conforter les gens dans leur certitude, si vous voulez, l'élection de Trump. Et ça a un peu aggravé des divisions qui existaient déjà. Mais c'est plus quelque chose qui s'est installé sur une tendance de fond qui est bien plus ancienne.
Alors, ce quelque chose, c'est donc finalement l'omniprésence du confort pour tous, hein, du confort moral, du confort intellectuel. Mais comment expliquer que finalement tout puisse faire scandale, y compris des détails, dans un océan de politiquement correct, dans une société qui en même temps tolère très très bien la pauvreté, les inégalités sociales, la précarité, la difficulté de se soigner correctement, même si c'est dénoncé, mais globalement, comment tout peut être mis au même plan en fait ?
D'abord, il faut voir que les Américains, contrairement aux Français, ont toujours mis en avant comme facteur explicatif principal la race, devant la classe. C'est-à-dire que les facteurs socio-économiques sont depuis peu, c'est Bernie Sanders qui a amené ça dans la dernière campagne présidentielle, mais sinon...
Le candidat de l'aile gauche démocrate.
C'est le premier à avoir amené cette dimension socio-économique dans l'explication de l'inégalité aux États-Unis. Jusqu'à présent, aux États-Unis, là où un Français va très facilement avancer une explication de classe, aux États-Unis, ça va être une explication de race ou ethnique au minimum, vous voyez ? Et c'est à travers ce prisme qu'on voit tout aux États-Unis. Et l'inégalité, les inégalités incroyables de richesse qu'il y a aux États-Unis ont tendance, ont été jusqu'à présent très souvent expliquées par la domination de l'homme blanc, cette patriarchie blanche, comme le disent les féministes, sur le reste de la société, ce qui est évidemment une explication très limitée.
Pour vous, la France va s'américaniser ? C'est inexorable ?
Oui, alors ça je le pense vraiment et sincèrement depuis que j'ai fini ce livre et que je suis encore plus qu'avant ce qui se passe en France pour voir si j'ai bien eu raison, si je puis dire.
Parce que ça fait longtemps qu'on le dit quand même.
Oui, mais il y a américaniser, regarder, apprécier Beyoncé ou regarder les rappeurs américains, et il y a américaniser au sens changement de fond de la société française.
C'est-à-dire contrat de citoyenneté. Le contrat de citoyenneté à la française, vous le prédisez, va s'américaniser, va donc disparaître.
En quelque sorte, et là, c'est là où ça risque d'être dangereux pour la France, aux États-Unis, il y a un contrat de citoyenneté, une allégeance à la nation qui permettait à chaque communauté, justement, parce que c'est un pays qui a été fondé sur une immigration, de conserver toutes ses spécificités et ses particularismes, et de la devise américaine de plusieurs uns des pères fondateurs, ça date du XVIIIe siècle, c'est de toutes nos différences, grâce à ce contrat d'allégeance à la nation, on arrive à avoir à être des concitoyens, à avoir une nation. La France n'est pas du tout construite comme ça, mais la France change. Elle est de plus en plus justement multiculturelle, elle est de plus en plus cosmopolite. 20% des Français sont soit immigrés, soit ont des parents qui étaient immigrés.
Ça veut dire que vous prédisez une juxtaposition de communautés qui ne partagent plus rien en commun dans une société individualiste, matérialiste, rendue possible par la consommation 24 heures sur 24, l'ubérisation du travail, la désynchronisation des horaires, où plus personne n'aura le même jour commun de liberté et de repos, parce que c'est ça la société américaine, c'est ça qui nous attend.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément apocalyptique dans le sens où quand vous n'avez pas des codes en commun, quand vous n'avez pas une histoire avec des codes partagés, c'est bien normal que vous ne compreniez pas, que vous n'acceptiez pas les codes du voisin. C'est ça qui fait que moins vous avez de codes en partage, plus vous allez rester avec ceux qui partagent vos codes pour sortir du débat sur l'identité. Prenez l'alimentation, un dîner. Je raconte dans le livre pourquoi une des raisons pour lesquelles des amies américaines ne font plus de dîner, c'est parce que quand elles invitent quelqu'un, elles reçoivent 10 messages qui leur disent « moi je suis vegan, moi je suis keto, moi je suis gluten free ». Et donc il y en a une qui dit « ah non mais moi ras-le-bol, j'invite plus personne ». Et donc elle invite que ses copines végétariennes, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc à force d'être dans une société où on se préoccupe tellement de soi et on se vit comme un individu qui est la chose la plus importante, on se replie forcément sur ceux qui nous ressemblent. Voyez.
Géraldine Smith, en attendant de savoir si l'avenir vous donne entièrement ou partiellement raison, en tout cas, il faut vous lire. Votre livre est tout à fait passionnant pour découvrir ce pays dans les interstices de l'actualité politique. Tout simplement, la vie quotidienne vue en Amérique, bientôt en France, et c'est publié chez Stock. Merci d'être passé chez les 7 milliards de voisins et bon retour en Caroline du Nord.
Merci à vous.
7 milliards de voisins, dans quelques instants, portrait d'une jeune saoudienne. So I haven't had a drink since my last one. No clouds in the sky, but I'm on one. I'm alright. Cupid shot me in the heart with an AK. I'm on a ride, I'm on a high, I'm on a play date. I'm alright. Oh yeah. Nancy Gray chez 7 milliards de voisins. Portrait maintenant de Rana Ahmad. Elle a 33 ans. Cette jeune saoudienne combat pour les droits des femmes et pour le droit de ne pas croire en Dieu. Elle a fui son pays en 2015 pour s'installer en Allemagne où elle étudie la physique. Elle se sait en danger. Elle dit ne plus pouvoir retourner en Arabie Saoudite. Elle vient de publier « Ici, les femmes ne rêvent pas. Récit d'une évasion » aux éditions du Globe. Et Charlie Dupio l'a rencontrée.
Je suis née en Arabie Saoudite, ma famille est originaire de Syrie, et j'ai eu une enfance normale et paisible. Mais quand j'ai eu 11 ans, un jour, mon grand-père m'a confisqué mon vélo. Lui et mes parents ont ensuite décidé de me faire porter le voile pour couvrir mes cheveux. Et j'ai beaucoup pleuré parce que je ne comprenais pas pourquoi je devais porter ce voile, pourquoi mes cheveux ne pouvaient plus voir le soleil. I feel like okay I will do it because my mom also do it, my aunt, my every woman in puis je me suis dit que j'allais m'y plier parce que ma mère, mes tantes, toutes les femmes autour de moi se couvraient les cheveux. À l'âge de 14 ans, j'ai dû couvrir mon visage et porter le niqab. À partir de là, j'ai voulu savoir pourquoi moi je devais porter ce vêtement alors que mon frère lui était libre de faire ce qu'il voulait. Pour aller voir ses amis par exemple, il n'avait qu'à ouvrir la porte et sortir. Mais pour moi, c'était très difficile.
Et il y a une rencontre en fait virtuelle qui change votre vie, c'est celle d'Arabe Athéiste. En quoi cette rencontre-là, par Twitter, vous inspire ?
J'ai découvert ce compte Twitter quand j'avais 25-26 ans. En fait, je cherchais plus d'informations sur l'athéisme. C'est le compte qui m'a ouvert les yeux, m'a conduite à chercher encore plus.
There I am first time I get informed about evolution theory and Big Bang theory and
pour la première fois j'ai lu des articles sur la théorie de l'évolution ou celle du Big Bang. J'ai découvert l'existence de ces gens qui ne croyaient en aucune religion et ça a été un choc pour moi. Rien que le mot athéisme, tout ça s'est fait sur Internet. J'ai commencé à télécharger des livres interdits en Arabie Saoudite, ceux de Nietzsche, ou même le livre du biologiste Richard Dawkins, Pour en finir avec Dieu. Ce livre n'était pas autorisé, alors je le gardais tout le temps avec moi sur une clé USB que j'emportais partout, car j'avais peur qu'on sache que je lisais ce livre. Cela m'a pris un an de passer de musulmane à athée dans ma tête. J'ai passé une année à chercher, à réfléchir, à pleurer, et à la fin de tout ce processus, je me suis dit... Ne sois pas stupide dans ce pays et auprès de ta famille, si quelqu'un sait que tu es athée, on va te tuer. Et là, je me suis dit que ce n'était plus possible pour moi de vivre dans ce pays. Si on quitte l'islam, même si c'est pour se convertir à une autre religion, on est condamné à mort.
Et donc, vous décidez de partir, vous quittez l'Arabie Saoudite en 2015, en mai 2015. Comment vous vous sentez d'avoir dû quitter votre pays ?
It's bad, you know. I feel all the time bad because it was.
Je me sens mal tout le temps. Je n'avais pas le choix. C'était la seule façon de m'en sortir, la seule option pour avoir une vie normale.
Because I am every day there. I was really afraid someone will know I am atheist and I will be killed.
Tous les jours, j'avais peur qu'on me démasque, qu'on découvre que j'étais athée. J'en faisais des cauchemars. J'étais paniquée. J'avais aussi peur de ma famille car je savais qu'ils n'accepteraient pas mon athéisme. Et puis, pas seulement mon athéisme, je lisais aussi sur les droits de l'homme, je lisais sur le féminisme, sur la façon dont les femmes vivent dans d'autres pays. Et je me demandais, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ce genre de vie ici ?
Et à l'époque, quand vous partez, vous avez un travail.
Oui, j'étais secrétaire dans une école. Mais à ce moment-là, je me suis dit que si je ne partais pas, si je ne m'échappais pas, j'allais mettre fin à mes jours. Je ne voulais plus vivre comme ça. Je n'avais pas beaucoup d'argent, alors j'ai dû emprunter de l'argent à un ami rencontré au travail.
Et vous arrivez jusqu'en Allemagne.
Oui, je suis venue illégalement. Je suis d'abord allée en Turquie. Puis j'ai pris le bateau jusqu'en Grèce. J'ai rejoint la Macédoine, la Serbie et tous ces pays jusqu'à l'Allemagne. J'ai choisi l'Allemagne car je voulais étudier et j'avais vu que les études à l'université n'étaient pas très chères là-bas, entre 200 et 300 euros l'année. J'ai appris la langue, je travaille là-bas et je veux étudier là-bas. J'ai déjà commencé à étudier la physique d'ailleurs.
Dans votre livre, vous écrivez « Quand on est athée dans un pays arabe, on se sent toujours isolé, toujours en danger, on est en danger ». Aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous recevez des menaces ? Je crois que vous recevez des menaces de la part de votre frère.
Oui, je pense qu'il prévoit toujours de venir me tuer ici en Allemagne parce qu'il ne peut pas accepter que je ne sois plus musulmane, que je ne me couvre pas et que je sois active dans les médias. Je fais des interviews avec des photos qui circulent sur Internet. Pour lui, je suis la honte de ma famille en permanence. S'il réussit son plan et qu'il arrive en Allemagne, je sais qu'il va me tuer immédiatement en me voyant. Il ne va même pas essayer de parler avec moi. Si la fille amène de la honte, il faut la tuer, sans réfléchir.
Quel regard vous portez sur la politique du prince héritier Mohamed Ben Salman, qui affiche notamment une volonté de promouvoir les droits des femmes. Depuis juin, les femmes ont le droit de conduire en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Pour moi, c'est de la propagande. Il a fait cela pour avoir le soutien des pays occidentaux. Regardez, j'autorise les femmes à conduire. Mais nous avons toujours un système de tutelle dans le pays dont les femmes souffrent. Elles ont besoin d'une permission pour voyager, étudier, pour faire quoi que ce soit dans leur vie. Et puis ce décret qui nous autorise à conduire, c'est aussi parce que l'économie saoudienne ne va pas très bien en ce moment.
Votre livre s'intitule « Ici, les femmes ne rêvent pas » en Arabie Saoudite. Vous, aujourd'hui, quels sont vos rêves ?
Ouvrir ma grande organisation pour l'éducation et les droits des femmes dans le futur. Pour ouvrir les yeux des gens sur les vies des femmes, pas seulement en Arabie Saoudite, mais dans d'autres pays musulmans et du monde arabe. Je veux changer la situation, pas seulement en parler. Même si pour cela, je dois être tuée.
Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Vous pouvez réécouter bien sûr toutes nos émissions en podcast ou sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine et nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et quant à nous, on se retrouve demain, 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, le journal.